Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous, bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, tous les jours, midi, 15h. Estelle, je le disais à l'instant, est encore en vacances, elle revient dès lundi prochain. Mais je suis là, et heureusement, je ne suis pas seul. Avec moi aujourd'hui, Mao Becker-Granier pour nous donner toutes les infos pour tout comprendre. Salut Mao.
Salut Rémi.
Thierry Moreau, journaliste.
Salut Rémi.
Toujours fidèle.
Salut à tous.
Merci d'être là un 15 août. Fatima Benomar, militante féministe. Salut Fatima.
Bonjour, absolument ravie de fêter mes vacances en direct.
Mais évidemment. Et Jérôme Lavrieux, ancien député européen, propriétaire de Gîtes. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Dans un instant, pénurie en cascade. Vous l'avez vu, moutarde, huile de tournesol, voiture neuve, électroménager, en lien avec le Covid et la guerre en Ukraine. Et si la solution, c'était de moins consommer, vous nous appelez au 3216 à 12h30. Faut-il accorder le droit de vote aux étrangers, aux élections locales? C'est pas nouveau, mais c'est ce que demande, redemande l'ancien ministre socialiste François Rebsamen, soutien désormais d'Emmanuel Macron. À 13h, plus d'une femme sur deux hésite à aller à la plage seule de peur d'être harcelée. Est-ce que ça vous étonne? À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, ce sera le zapping. À 14h, un projet de loi envisage de faciliter l'implantation d'éoliennes en France. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une hérésie? Et puis à 14h30, les immanquables de Mao Becker-Granier avec les agressions qui se multiplient contre les éboueurs à Marseille et le coût de la vie étudiante qui explose. Enfin, le quiz d'Estelle, ce sera vers 14h50 avec à gagner aujourd'hui Mao.
Aujourd'hui, vous allez pouvoir remporter le tote bag RMC et le jeu de société Burger Quiz, parfait pour les soirées d'été. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3216 touche 4 ou envoyez le mot quiz au 73216, quiz au 73216.
RMC, Estelle Midi.
Après l'huile, tout simplement, le blé, certains produits électroménagers, les vélos et les voitures neuves, les pénuries en lien avec la crise Covid et la guerre en Ukraine sont entrées dans notre vie quotidienne. On l'a tous constaté en faisant nos courses et en lisant la presse. Mao, il semble bien en tout cas qu'il va falloir s'y habituer.
Et en ce moment, par exemple, quasiment impossible de trouver de la moutarde dans les supermarchés français. En cause, la sécheresse au Canada. Le Canada qui fournit 80% des graines importées en France. Une quasi-pénurie qui pourrait durer encore plusieurs semaines en attendant que les conditions climatiques s'améliorent. Et il n'y a pas que l'alimentaire qui est touché, mais aussi l'automobile. Le monde entier subit une crise des semi-conducteurs. Conséquence directe, les usines de voitures sont ralenties et les prix flambent. Il n'y a plus de voitures neuves en vente à moins de 10 000 euros sur le marché. Une crise qui pourrait durer jusqu'en 2024, selon les professionnels. D'autant que la situation de Taïwan, premier producteur dans le monde, reste tendue avec la Chine. Les pénuries concernent aussi la main-d'œuvre. Dans la restauration, par exemple, en France, plus de 200 000 offres d'emploi n'ont pas trouvé preneur cet été. C'est le sens de l'appel de Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive dans le JDD. Il estime que l'on va donc être contraint à changer de modèle si les pénuries se poursuivent.
Alors, face aux pénuries, moi j'étais en pénurie de micro là. Face aux pénuries en cascade, faut-il s'habituer à moins consommer, Jérôme Lavrieux?
Bah, je pense qu'il faut s'habituer à consommer différemment. Vous remarquerez que toutes ces pénuries n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Tout n'est pas dû à l'Ukraine, tout n'est pas dû au Covid, ni à Taïwan, mais c'est la conjonction de tout ça. Pour ne pas trahir de secret, hier, j'avais besoin d'aller chercher de l'huile, je suis allé dans le village avec le petit supermarché qu'il y a, on avait une bouteille d'huile de tournesol par passage. Il m'en fallait deux, il a fallu que je fasse deux fois la queue pour venir le faire. Mais l'huile de tournesol, c'est pas les récoltes de cette année, c'est le fait que comme il y a eu la guerre en Ukraine, on a anticipé le fait qu'il n'y aurait pas de bonnes récoltes et qu'ils ne puissent pas exporter. Tout le monde s'est rué en même temps à la fin du printemps sur l'huile, et du coup, il y en a plus disponible parce qu'il y en a plein les placards de plein de monde. C'est comme ma grand-mère qui achetait du sucre à chaque fois qu'il y avait une mauvaise nouvelle à la télé, parce que avant la guerre, ils avaient acheté du sucre. Puis le résultat, si tout le monde achète du sucre en même temps, il faut attendre la récolte d'après. Sur les graines de moutarde, c'est parce que en Saskatchewan et dans l'Alberta au Canada, les conditions climatiques ont été tellement désastreuses et que nous ne produisons plus, même pour la moutarde de Meaux, même pour la moutarde de Dijon, de graines de moutarde, et il faut attendre la prochaine récolte pour pouvoir en importer. Il faut en consommer moins, consommer différemment, consommer d'autres huiles. Sur la voiture, je pense que les puces ont bon dos. C'est surtout qu'il y a le système automobile est en train de se réformer. Après la course au volume, beaucoup de voitures pas chères, les constructeurs sont en train de restaurer leurs marges et ils ont décidé de ne plus produire de petites voitures pas chères pour produire des grosses voitures qui nécessitent beaucoup de puces, mais sur lesquelles les marges sont beaucoup plus importantes. Ce qui fait qu'on ne manque pas de voitures, mais il y a une explosion de la voiture d'occasion.
Je voyais, Thierry, vous le voyez oui, passer de la radio, mais qui était très, qui réagissait à chacun
de vos journées.
Et d'autres lignées de la tête.
Je suis d'accord avec toi sur le fait que certaines multinationales profitent de cet état de pénurie. Mais évidemment qu'on ne pourra plus être dans une course effrénée à la consommation. Ça, c'est une certitude. Et tu en as expliqué, les causes sont multiples. Mais tout nous amène à réfréner notre consommation. En revanche, il y a quelques obstacles à ce chemin vers la sobriété. La première, c'est qu'il faut que ça soit une sobriété choisie et non contrainte. Ça veut dire qu'il va falloir emmener la population, toute la population, en changeant ce que Jérôme disait, nos modes de consommation. Aujourd'hui, il y a une partie de la population, à cause de la précarité, qui a une sobriété contrainte.
Ah oui.
Ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. La deuxième chose, et je ne parle pas des écolos qui bouchent les trous des golfs, où là, c'est une sobriété imposée, dirigée, et ça non plus, ça ne marchera pas. La deuxième chose, le deuxième obstacle, c'est qu'on ne pourra pas le faire tout seul dans son coin. C'est-à-dire qu'à un moment, le Texan qui pense que le pétrole est inépuisable et que le réchauffement climatique n'existe pas, il faudra à un moment le convertir. Et ça, ça ne va pas être simple non plus. Et la troisième chose, et j'en termine sur ce que tu as terminé, là où tu as terminé, Jérôme, c'est que les multinationales aussi doivent prendre ce chemin d'une sobriété à la fois dans leur mode de production et
intérêt.
Aussi dans notre offre.
Thierry, c'est pas leur intérêt, tu sais très bien.
Évidemment que c'est pas dans leur intérêt, c'est ce que vient de dire Jérôme.
Si,
ils ont intérêt à faire du gras.
Mais si.
À un moment,
moi, j'avais compris que l'intérêt d'une entreprise, c'était de vendre.
Qu'à un moment, ils vont comprendre qu'ils gagneront de l'argent avec la transition écologique. Mais pour l'instant, ils n'en sont pas encore là. Donc, ils font leur gras sur ce qui leur permet de faire le gras aujourd'hui, c'est-à-dire les énergies fossiles et le manque de sobriété, pour le coup.
Fatima, face aux pénuries, faut-il s'habituer à moins consommer ?
Oui, déjà, pour réagir à ce que vous dites par rapport à la décorrélation des raisons en fait de ces pénuries, elles vont être de moins en moins évidentes. C'est que je pense que la crise écologique, déjà, elle crée des crises sanitaires parce que en déstabilisant en fait et la biodiversité et la manière aussi dont la faune et la flore cohabitent sur cette planète, ça crée aussi des virus et aussi ça va provoquer des crises géopolitiques tout simplement parce que il y aura de la raréfaction des ressources, il y aura des déplacements de population et donc ça c'est aussi ce qui donne malheureusement l'engrais à des confrontations et à des guerres. Effectivement, on a souvent tendance à ridiculiser tous les actrices et les acteurs politiques qui essayent de pousser dans le débat la question de la sobriété. De toute façon, les changements de mœurs, on va les avoir de gré ou de force. Et en fait, le problème, c'est qu'ils vont être inégalitaires. Et ils le sont déjà, en fait. Donc, il y a des personnes qui, de toute manière, se plient à la sobriété du fait de ce qu'il y a sur leur compte en banque. Et d'autres personnes qui, au contraire, vivent dans l'opulence et à des milliers d'années-lumière de prendre conscience à la manière dont ça va vraiment les impacter. Donc, mais là où je suis d'accord avec toi, Thierry, c'est qu'il faut que ce soit un plan de combativité et pas de résignation. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix politiques. Tout ce qui est produit de la terre, l'érosion, enfin, tout ce qui est saccagé par les sécheresses et les pluies diluviennes qui s'en suivent en général, je ne suis pas pour s'y résigner. C'est-à-dire, si on commence à dire qu'on ne doit plus avoir de moutarde, etc., parce qu'il y a de la sécheresse, non, c'est déjà se dire que de toute manière, il n'y a plus moyen de sauver cette planète qui a ses trésors luxuriants et ce serait bien dommage. Par contre, la guerre qu'on va devoir faire aux multinationales, qui là je suis d'accord avec Rémi, et n'ont aucun intérêt altruiste à céder, ouais. C'est que par exemple pour les trois multinationales, je vais en citer trois, comme ça je peux citer des marques, qui sont les plus productrices de déchets plastiques, c'est Coca, Unilever, Nestlé. Et Nestlé en plus qui a une énorme responsabilité et inconscience dans sa manière, dans la prédation qu'elle a par rapport aux nappes phréatiques. Ces personnes-là ne négocieront pas sur des questions morales.
Faudra m'expliquer comment Coca va décider demain de moins vendre et de faire plus d'argent. Je ne sais pas comment ils vont faire.
Coca, pardon.
Juste pour finir, et là où peut-être il peut y avoir une prise de conscience chez les puissants et les décideurs, c'est que c'est vrai que si je prends la métaphore du film Don't Look Up, on est au moment où on commence à voir la météorite. Il y a eu toute une première partie du film où on la voit pas, donc c'est des débats théoriques. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Là, on commence à l'apercevoir. Le confort des puissants est un petit peu déstabilisé quand même, et que peut-être ils seront d'un peu meilleure volonté, mais je crois quand même que ça va être un rapport de force et un affrontement avec les multinationales qui sera vraiment pas si pacifique que tu le penses.
Rapidement, Jérôme, parce qu'il y a Jeff qui nous attend au 32-16.
Moi, je pense pas que les multinationales décideront d'elles-mêmes d'être plus vertueuses, mais si vous décidez de ne plus acheter de bouteilles de Coca de 33 centilitres en plastique et d'acheter uniquement un contenant d'un litre et demi, ils vendront moins de 33 centilitres.
Ils passeront aux emballages recyclables.
Vous allez à la SNCF, si vous voulez acheter de l'eau dans la SNCF, maintenant l'eau est en carton. Dans des emballages en carton, les purs en emballage en plastique. Et j'imagine qu'ils ne gagnent pas moins d'argent en le faisant.
Coca mais fera pareil, le jour où ils sentiront qu'on
est bien d'accord.
Allez, face aux pénuries en cascade, faut-il s'habituer à moins consommer? Vous nous appelez au 32-16 et Jeff est avec nous. Bonjour Jeff.
Oui, bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC. Vous nous appelez depuis la Gironde, c'est ça?
Oui, Gironde, proche aussi de la Dordogne et du Lot-et-Garonne.
D'accord. Jeff, est-ce que vous êtes prêt à moins consommer ou est-ce que vous avez envie de moins consommer?
Je pense que de toute façon, on va y être contraint. Par la disponibilité des produits et deuxièmement par le prix des produits. J'ai bien aimé le terme tout à l'heure de sobriété choisie plutôt qu'imposée. Je pense que s'il n'y a pas un effort qui est fait collectivement, et y compris d'organisation, on va aller vers des soucis de pénurie et les premiers impactés, ce seront d'abord les gens les plus pauvres.
Je vois, j'ai pas précisé, excusez-moi Jeff, que vous êtes viticulteur, vous?
Oui, tout à fait viticulteur sur les côtes Castillon.
Pour en bio
qui connaissent. En bio et j'exerce aussi en conventionnel. Donc j'ai vraiment les deux côtés, on va dire, de l'agriculture. Voilà, une vision, on va dire, un peu globale sur ce que l'on peut faire au niveau agricole.
Alors là, je prends le prisme par votre profession. Si vous êtes prêt à ce qu'on vous achète moins de bouteilles, mais meilleures, peut-être à des prix un peu plus élevés, c'est ça?
Écoutez, c'est très aimable de parler de cela, parce qu'en Gironde, on est confronté... d'un côté, à une image de cru classé très très cher, mais qui concerne qu'une élite. Mais la majorité de la Gironde produit des vins. Et actuellement, on a des cours extrêmement bas, de l'ordre, pour vous donner un ordre d'idée, les vins sont achetés sur des bases à peu près de 0,50, 0,60 sur des vracs en équivalence bouteille hors taxe. On se demande, tout cela ne sert pas, à grand chose. Produire pour ne pas nourrir le viticulteur qui va faire faillite.
Et puis à l'autre bout, le consommateur, il n'a pas son litre de vin à 0,5 centimes du litre. Donc ça veut dire qu'entre vous qui produisez avec ce tarif-là et l'autre bout, le consommateur qui paye cher son vin, il y a des gens qui se gavent. On va pas se mentir.
Merci Jeff d'avoir été avec nous depuis le département de la Gironde. Jeff qui nous appelait au 32-16 comme l'a fait Anthony. Bonjour Anthony.
Bonjour Rémi, bonjour l'équipe de Seldonie.
On est à Nevers dans la Nièvre.
C'est bien ça.
Bon, Anthony, on consomme moins?
Oui, beaucoup, comme je disais dans mon message. Ouais, j'ai complètement changé mes habitudes de consommation. Après, j'ai pas attendu le Covid ou la guerre en Ukraine. Après, j'ai la chance d'avoir le supermarché, des petits producteurs pas très loin de chez moi, donc c'est un avantage. Donc moi,
c'était quoi votre démarche à l'époque? C'était un souci environnemental, c'est ça?
Non, pas du tout, parce que allez, vous allez un petit peu quand même, parce que un souci économique, parce que je trouvais je gaspillais un peu trop, on va dire. Et le fait de consommer au jour le jour fait que je gaspille beaucoup moins.
Et vous vous y retrouvez, oui, financièrement, donc du coup, vous vous y retrouvez forcément.
Oui, oui, bien sûr. Hein. Je fais plus les courses au mois comme le faisaient mes parents. Hein. Je fais mes petites courses tous les deux jours et ça va très bien comme ça. Mmh.
C'est pour ça que j'ai vraiment parlé Fatima. D'autorestriction inégalitaire. Ça va vraiment se jouer à de quelle classe sociale on est en train de parler. Et ça, il faut pas. Par exemple, tout à l'heure, tu appelais au boycott des marques. Moi aussi, quand je les cite, j'espère que les personnes vont s'informer.
Aucun boycott. J'appelle à changer ses habitudes
de consommation. Ou en tout cas, à imposer un rapport de force avec ces marques pour qu'elles changent elles-mêmes leur comportement. Mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va arriver à avoir ce rapport
mais
de
si,
force.
Parce que
les multinationales, elles prennent toute leur marge sur l'exploitation des ressources et des travailleurs.
Mais,
et,
Jérôme.
Mais ouais, non, mais les multinationales, elles sont là pour essayer de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'elles ont été créées. Sinon, ça s'appelle une association 1901, vocation caritative. Mmh. C'est pas ça leur sujet. Si on part du principe que plus personne ne doit essayer de gagner de l'argent dans la vie, on est sur RMC, il y a de la publicité, il faut gagner de l'argent pour payer les
non,
salariés.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, etc. Les multinationales, dans les pays où il n'y a pas un âge minimum pour travailler, elles font travailler des enfants,
entendu,
on le sait.
Sauf que si on arrête de vouloir acheter des t-shirts pour 1 euro et en s'imaginant qu'ils tombent du ciel parce qu'il y a une récolte de t-shirts tout fait et que ce n'est pas des petits-enfants au Pakistan ou dans des camps de rééducation en Chine qui les font, mais ce n'est pas le problème le multinational, c'est mon problème à moi.
Non, ça ne marchera pas comme ça.
Je suis assez con pour penser que les tout
il y a des gratuits, gens qui n'ont qu'un euro pour
voilà,
acheter leurs t-shirts.
Et donc j'essaye de ne pas le faire. Et donc,
je te donne un exemple.
On est tous en train de faire des arbitrages entre notre
groupe. Je te donne un exemple où je vais m'auto-incriminer. Comme ça, vous voyez.
Attention, écoutez bien, c'est pas souvent.
par exemple, moi, je suis contre le travail le dimanche. J'ai milité pour ça. En 2015, je fais des manifestations pour ça. Voilà, en plus. Depuis que le travail du dimanche est beaucoup démocratisé, je suis la première à consommer le dimanche. Mmh. On va dire, mon surmoi idéologique ne l'emporte pas sur mon surmoi social. Mmh. Et je finis par avoir un comportement qui est contre-intuitif par rapport à mon éthique. Et je pense que malheureusement, la majorité des personnes sont aussi peu éthiques que moi. Et donc, je pense que si on n'en appelle qu'à la bonne volonté de réfléchir sans qu'il y ait vraiment d'autres leviers pour faire plier les multinationales, ça va être très très compliqué. Bien sûr que la prise de conscience individuelle est très importante pour nourrir ce rapport de force, mais elle ne suffit pas.
Anthony, une dernière question. Vous, on a compris, vous déconsommez, en tout cas vous consommez moins depuis déjà un moment. Lorsque vous voyez l'actualité, vous voyez, bah là, je vais prendre l'exemple de l'huile de tournesol. Vous voyez ces images de rayons vides parce que des personnes, au début, maintenant, il y a des restrictions. Prenez 10-15 bouteilles pour avoir des réserves. Ça vous fait quoi?
Moi, ça m'a fait rigoler parce que j'ai pas eu besoin de moutarde ou d'huile. Hein. J'en consomme. Je sais pas si c'est moi qui en consomme peu ou qui ne fait pas de stock. Mais j'ai terminé ma bouteille. Je suis allé en chercher une comme d'habitude et j'en ai trouvé. Voilà. J'ai pas eu besoin d'être en sous-consommation. Je ne sais pas, je comprends pas les gens qui font des stocks pour faire du stock.
Merci Anthony d'avoir été avec nous au 32-16 depuis la Nièvre. Et Philippe Moati nous rejoint. Bonjour Philippe Moati.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'Université Paris-Cité, spécialiste de la distribution, cofondateur de l'Observatoire Société Consommation. Philippe Moati, vous avez vu, vous avez entendu notre débat depuis le début de cette heure, ces appels qui se multiplient face à la situation que l'on connaît, des pénuries en cascade liées à la crise Covid ou à la guerre en Ukraine. Certains appellent à moins consommer, ce serait la solution, est-ce que vous y croyez ?
Écoutez, c'est très difficile de parler au singulier quand on évoque les comportements de consommation parce qu'on trouve tout et son contraire dans une société qui est très très morcelée. Mais si on essaie d'observer les tendances, dans les enquêtes que nous menons à l'Obsoco, on a vu monter au fil des années la proportion de Français qui aspirent à consommer moins mais mieux. Aujourd'hui, on est à peu près à 30%.
Entre aspirer et faire, vous savez qu'il y a une marge.
C'est déjà bien, c'est une première marche.
Bien entendu, mais exactement, c'est la première marche. Et d'ailleurs, ça se traduit aussi dans les faits. Hein. Nous avons mené une étude sur les comportements de consommation dits responsables et on est arrivé au constat qu'environ 40% des Français étaient déjà impliqués, à des degrés divers, hein, dans une consommation qui est consciente de ses impacts et qui tente de les réduire. Donc il y a une dynamique qui est en cours, qui est évidemment parallèle à la prise de conscience de la gravité de la situation environnementale. Hein. Et là, c'est un des vecteurs qui va nous pousser vers un nouveau modèle de consommation. Ça ne sera pas le seul, parce qu'il ne faut pas faire porter toutes les responsabilités sur les épaules des consommateurs. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Hein. Et notamment, je pense que les entreprises doivent être mises au pas, parce que c'est elles qui conçoivent les offres que les consommateurs peuvent consommer.
Alors, je vais vous, quand même, pour apporter la contradiction, moi, je me souviens de ce qu'on s'est dit lors de la crise Covid. Je parle de là vraiment en pleine pandémie, lorsqu'on était confinés, etc. Souvenez-vous, le monde d'après. Tout le monde nous disait, mais on va revoir notre modèle, parce qu'on était, par exemple, je vais prendre un exemple, les voyages. Voilà, bah, on pouvait plus voyager. Et donc, contraint et forcé, nous allions changer notre modèle. On n'allait plus prendre l'avion, c'était terminé. Aller se passer une semaine, ou j'exagère, mais 15 jours en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, ou aller passer un week-end à Tanger, le temps de 2 jours, c'est terminé. La reprise est phénoménale. Hein. Les aéroports n'arrivent plus à répondre à la demande, les compagnies sont débordées.
Et le premier qui a dit ça, c'est le président.
Ouais. Donc le monde d'après, il existe oui, vraiment, le monde d'après?
Oui. Moi, je vais vous dire, vous avez rappelé tout à l'heure, mon activité principale, c'est de m'occuper de faire le ménage dans mes gîtes. Avant le Covid, ma première année 2019, j'ai 97% de gens qui viennent pendant les vacances, qui sont des Anglais, des Belges, des Hollandais ou des Danois. Après le Covid, c'est-à-dire après le premier confinement, où j'ai tout perdu en une heure de temps avec l'annonce du Premier ministre pour dire les restaurants sont fermés, donc tout est fermé. Après, l'été d'après, je suis passé à 100% de citoyens français qui sont venus dans mes gîtes, qui ne connaissaient pas. Parce qu'avant, ils partaient en Tunisie, ils partaient en Espagne, ils partaient au Maroc, ils partaient ailleurs. Et depuis, je n'ai pas récupéré cette clientèle étrangère.
Pour des raisons économiques ou idéologiques, à votre avis?
Je pense que c'est un ensemble. Je ne reçois ni des économistes, ni des idéologues. Je reçois des citoyens qui vont et qui font un arbitrage. Et qui font un arbitrage parce qu'ils viennent dans un endroit où d'habitude ils n'est pas, parce qu'il y a moins de monde. Et ils aiment bien avoir moins de monde maintenant. Et puis c'est un peu moins cher que d'aller.
Et puis on le sait que les billets d'avion à 10 euros pour aller à l'autre bout de l'Espagne, mais ça sera terminé.
Voilà. Bah, pour l'instant, c'est pas terminé.
Non, ah
bah,
ça va l'air.
Ça va venir très vite. Philippe Moati, vous y croyez?
Oui, j'y crois, mais comment dire, je crois qu'il faut éviter les raisonnements simplistes. Il faut mettre en place un système qui va faire jouer trois types d'acteurs. Les consommateurs sont engagés dans un changement culturel. Ça touche pour l'instant une fraction minoritaire. Il faut que ça se répande, et notamment à travers la prise de conscience que des enjeux environnementaux, mais pas seulement. Et ça, la crise sanitaire a apporté un élément favorable, c'est que on a déconsommé contraint et forcé, et on a été nombreux à constater que clairement on n'était pas plus malheureux, et au contraire, parce qu'on a eu du temps pour passer du temps avec ses enfants, en famille, à faire la cuisine. Les Français ont adoré faire la cuisine pendant le confinement. On s'est livré à ses activités préférées, à ses passions, et donc pour beaucoup de gens, c'est une façon de réguler les priorités dans la vie. On l'a vu dans le rapport au travail, d'ailleurs. S'il y a une telle pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs difficiles, parce que beaucoup de personnes se sont dit, ben non, je ne vais pas passer ma vie à faire un boulot à la con, la priorité n'est pas là. Donc il y a un changement culturel qui est en cours, il ne suffira pas, il faut qu'il soit accompagné du côté des entreprises, mais je n'ai pas tellement de confiance dans les entreprises pour le faire spontanément. Ça sera un peu sous la contrainte que les choses s'accéléreront, et la contrainte, elle viendra du régulateur, de l'État, hein, qui devra imposer des règles du jeu aux entreprises d'une part, et aux consommateurs, ceux qui ne sont pas spontanément convaincus, notamment à travers le système de prix, et que la consommation qui a un impact défavorable bah, coûte plus cher, et que ça nous incite assez spontanément, ou soit rationné d'ailleurs, hein, ce qui est un système plus juste socialement, soit rationné pour que on soit un peu à l'unisson des impératifs qui sont devant nous.
Merci Philippe Moati d'avoir été avec nous dans Estelle Midi sur RMC, professeur agrégé d'économie à l'université Paris-Cité, spécialiste de la distribution, cofondateur de l'Observatoire Société Consommation. Thierry nous rejoint au 32-16. Bonjour Thierry.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
On est dans le Var, à Toulon.
Oui, juste à côté de Toulon, oui, exactement.
Très bien. Alors, est-ce juste à côté de Toulon, dans le Var, est-ce que Thierry consomme moins qu'avant? Oui, est-ce qu'il va s'y mettre?
Alors non, il consomme ni plus ni moins qu'avant. Voilà, je n'achète pas quelque chose que j'ai déjà en triple exemplaire. Et je ne me prive pas si j'ai besoin de quelque chose. Par contre, je vous appelle, pour moi, c'était pour tirer un coup de gueule, parce qu'on parle de, vous parlez de pénurie aujourd'hui, de pénurie de plein de choses, et nous, dans le Var, on a une pénurie en ce moment, c'est la pénurie d'eau.
Oui.
Et je voudrais tirer un peu la sonnette d'alarme.
Pas que dans le Var, d'ailleurs, dans l'immense majorité du pays, hein, ouais.
Oui, à cause de l'esclave.
Sauf que dans le Var, on est quand même bien au sud,
ouais.
Et qu'on est quand même pas mal envahi l'été par les touristes parisiens qui viennent nous voir.
Envahi quand même, économiquement. C'est
et qui viennent dépenser leur argent dans le Var.
Il n'y a pas que des Parisiens.
Alors, voilà. Mais il y a beaucoup de Parisiens quand même. Et donc,
mais qui viennent dépenser leur argent dans le Var.
Exactement. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, le fait qu'on ait des pénuries et que tout le monde se pose la question de savoir comment ça va se passer dans quelques semaines, voire dans quelques mois, voire dans quelques années, eh bien, on a des élus qui continuent à tour de bras à construire, à implanter des habitations, des bâtiments. Ah bah oui. Et moi, je vois autour de moi, je surplombe la vallée de ce qu'on appelle la vallée du Gapo, qui est bien connue pour de temps en temps inonder la vallée et notamment l'arrière-pays de Hyères, dans le Var. au bord de mer, eh bien, aujourd'hui, vous avez à peu près 1000 logements qui sont en train de sortir de terre en face de chez moi, dans la vallée. Et moi, personnellement, je me demande comment on va réussir, avec toutes ces implantations de manière récurrente, à les alimenter en eau et à pourvoir à tous leurs besoins, que ce soit l'eau, l'électricité, le gaz, les infrastructures routières qui ne sont pas du tout dimensionnées pour. Et je me pose la question de savoir s'il ne faudrait pas commencer maintenant à arrêter d'implanter à construire, implanter des habitations dans le Var. Et plutôt aller vers d'autres régions de France.
Ce qu'on disait tout à l'heure, Jérôme et Fatima Thierry, c'est que si il n'y a pas le politique, le pouvoir politique qui accompagne ce changement, ça ne pourra pas fonctionner. Hein.
Oui, mais si vous prenez l'exemple que nous dit Thierry, cet auditeur, bon, de toute façon, c'est toujours la faute des politiques. Je suis bien placé pour le savoir. Le premier truc, si vous voulez pas être rationné en eau, on a eu ce débat début juillet sur cette antenne, c'est que vous avez 20% de l'eau qui est captée, qui est traitée pour devenir potable, qui n'arrive jamais chez l'usager parce que les réseaux sont en mauvais état.
Et ça fait 40 ans
pour les
entretiens.
Si vous réparez les réseaux et que vous arrivez à un taux de 12% de perte, vous n'avez plus de problème d'alimentation d'eau, à part un système local si la pompe est tombée en panne, si le château d'eau s'effrite, etc. Mais rien qu'en faisant ça, vous réglez le problème de l'eau potable sur l'année, sur à peu près toutes les zones. Après, sur la construction, Thierry, je ne sais pas si vous êtes né à côté de Toulon.
Je suis originaire d'ici, oui, tout à fait.
Ouais, mais vous avez le droit de déménager, d'aller habiter là où vous voulez dans notre pays. Et si vous avez un terrain qui est constructible, vous avez le droit de construire dessus. Les autorisations d'urbanisme que
oui,
vous recevez,
que Thierry,
c'est si vous êtes en capacité d'alimenter les choses.
Sauf que Thierry met l'accent sur un point très important, c'est qu'un certain nombre de municipalités ont donné à tort et à travers des permis de construire partout, oui, tout le temps, n'importe comment. Et du coup, on arrive à des zones inondables
La faute sur mer,
souvenez-vous. Je suis vendéen, donc moi je connais très bien le problème. On savait très bien que ces constructions étaient à un endroit qui était
à côté de La Rochelle et de la commune de Hénande.
On savait très bien que cette partie-là était inondable et risquait un gros problème un jour. Et c'est arrivé.
Fatima, très, très vite.
Juste, vu que tu parlais de la du marché de... De la création de vêtements, à un moment, il faut avoir un pouvoir politique qui puisse réguler, c'est-à-dire que vous savez très bien les grandes marques où est-ce que se fournissent, vous l'avez cité, c'était au Bangladesh, c'est pour ça qu'il y a des drames comme le Rana Plaza, où les multinationales, elles sous-traitent dans des conditions tellement impossibles à remplir qu'ils sont obligés de sous-traiter au Bangladesh dans des bâtiments insalubres et que c'est comme ça qu'on arrive à des drames. Et ben, aucune de ces grandes marques n'a eu la moindre sanction, même pas voulu indemniser les personnes qui ont été handicapées à vie après ce drame. Donc, à un moment,
je suis aussi responsable, parce que quand j'en achète un t-shirt à moins de 1 euro.
Si personne n'achète de t-shirt dans ces conditions-là, il y en aura pas.
Je ne doute que je participe à ça.
Merci à Thierry de nous avoir appelé depuis le Var au 32-16. On vous a posé la question face aux pénuries en cascade. Faut-il s'habituer à moins consommer? On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Verdict, Mao.
55% ont répondu oui, il faut s'habituer à moins consommer. Donc, Louis qui l'emporte, mais le sondage est quand même très partagé.
Mais les mentalités évoluent tout doucement. Dans un instant, faut-il accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales? C'est ce que réclame l'ancien ministre socialiste François Rebsamen. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC. Vous nous appelez au 32-16.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi sur RMC, on passe à l'appel du jour, un appel lancé par l'ancien ministre socialiste François Rebsamen, maire de Dijon et soutien d'Emmanuel Macron pour accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Mao, le sujet n'est pas nouveau.
Eh oui, cette proposition figurait déjà dans le programme de François Mitterrand avant son élection en 1980. Ça remonte, il y a donc plus de 40 ans qu'on en parle, et depuis, plusieurs présidents se sont dit favorables au vote des étrangers aux élections locales. Nicolas Sarkozy avait d'abord déclaré y être pour à certaines conditions, avant de finalement retourner sa veste. François Hollande, l'avait promis avant d'y renoncer. Et déjà, en 2011, une proposition de loi sur le droit de vote aux élections municipales a été adoptée au Sénat, et c'est alors justement François Rebsamen Germaine qui dirigeait le groupe socialiste du Sénat, mais le processus législatif n'était pas allé à son terme. Cette semaine, c'est donc Sacha Houlier, député de la majorité présidentielle, qui a déposé une proposition de loi dans ce sens. Il est soutenu par la gauche, mais dans la majorité, le débat est vraiment loin d'être tranché. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est déjà dit fermement opposé à cette mesure. Alors, ailleurs en Europe, où en sommes-nous justement sur la question du vote des étrangers?
J'ai cru entendre qu'on était beaucoup plus avancé qu'ici. Ça dépend.
Bon, en Irlande, effectivement, c'est le seul pays qui accorde le droit de vote à tous les étrangers et sans condition depuis 1963. Donc eux, ils sont effectivement très en avance. D'autres pays et du nord de l'Europe, notamment les pays scandinaves, eux, l'autorisent sous condition. Il faut par exemple avoir vécu au moins 5 ans aux Pays-Bas, en Belgique, en Slovénie pour y voter. Seulement 3 ans pour la Suède ou la Norvège. Mais en revanche, il y a quand même 11 pays européens qui interdisent complètement le vote des étrangers et l'Allemagne en tête de ligne, par exemple.
Jérôme Lavrieux, faut-il accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales ?
Ça existe déjà.
Pour les ressortissants européens ?
Bah oui, je suis désolé de le dire. C'est 27, les ressortissants de 27 pays, plus 28, puisque les Anglais sont partis chez eux. 27 pays, c'est le seul endroit dans le monde, hein, je dis ça juste comme ça, où on peut voter dans son pays de résidence, même si c'est pas son pays de nationalité, pour les élections locales. En France, vous pouvez, non seulement si vous êtes belge, hollandais, ce que vous voulez, vous pouvez voter aux élections municipales françaises, vous pouvez même être élu. Vous pouvez pas être adjoint au maire et vous pouvez pas être désigné grand électeur pour le Sénat puisque c'est une question de souveraineté nationale après.
Enfin, si je suis australien ou algérien, que je vis en France depuis pas mal d'années.
Si vous êtes australien ou algérien et que vous vivez en France depuis pas mal d'années, vous avez une possibilité pour voter pas seulement aux élections municipales, mais à toutes les élections. Vous faites les démarches pour devenir français. Moi, je suis favorable à ce qu'on facilite les démarches
si j'ai envie
et le
de
processus.
Si j'ai envie de rester australien parce que c'est mon pays natal, et que je vis en France et que j'y suis bien, et que je suis bien intégré, etc., et que j'ai envie de participer à la vie.
Vous pouvez rester australien. La France ne reconnaît pas la double nationalité. Elle ne l'interdit pas, mais elle ne le reconnaît pas. Vous serez et français et australien. On va pas vous demander, la France ne demande pas la déchéance de nationalité de votre pays d'origine quand vous devenez français. Vous devenez français et vous pouvez rester australien. Et vous ferez comme vous voulez.
Fatima.
Moi, du coup, je suis marocaine, je suis pas concernée. Moi, je pense qu'il y a une situation.
Est-ce que tu aimerais pouvoir voter aux élections locales en France ?
Oui, tout à fait. Et c'est un chagrin à chaque élection. Bon, moi, parce que je suis particulièrement engagée en politique et que j'aimerais faire partie de ce rituel-là. Mais pour moi, il y a une vraie citoyenneté des résidentes. C'est-à-dire que je me sens étrangère résidant en France et je me sens. Je pense que les étrangers font vivre aussi la France. Ils travaillent, ils consomment, ils s'engagent, ils créent, ils y vivent, en fait. Ils participent au conseil de quartier, ils sont concernés par l'impôt, tous ne payent pas l'impôt, bon, tout le monde paye la TVA par ailleurs, mais c'est un fait qu'on ne peut pas décréter qu'on ne fait pas partie de l'organisme. La France, elle vit, elle a toujours eu des étrangers, et les étrangers l'ont toujours fait vivre partiellement. Et moi, je me sens fusionnelle avec ce pays dont je respire l'air depuis maintenant 21 ans, et je devrais pouvoir voter aux élections locales parce que je fais partie de ce corps qui est la cité politique et je pense que ce serait un élément d'intégration supérieure de se sentir un membre vivant de ce corps parce qu'on serait décisionnaire mais aussi co-responsable en fait du sort commun. Et effectivement, il faut savoir que les budgets des mairies ou des régions sont votés selon le nombre d'habitants et pour moi, on devrait avoir son mot à dire sur et un droit de regard sur ce qui est fait en fait.
Pourquoi voudrais-tu voter seulement aux élections municipales, pas aux départementales, pas aux régionales, pas
en
aux législatives.
Je pense, moi, parce que là, je me base sur cette loi, je pense même que quand on est résident dans un pays, on devrait être concerné par toutes les élections. On fait vivre ce pays, on subit ces mauvaises lois et on participe à ces bonnes
franchement,
lois.
Franchement, moi, je ne comprends pas. Le fait de payer des impôts, pour moi, ça n'ouvre pas à la citoyenneté. Sinon, ça s'appelle le suffrage censitaire.
Non, ça c'est de mauvaise foi.
Dans les maires. Deuxièmement, le lieu de résidence n'ouvre pas à la citoyenneté. Je rappelle qu'en France, vous pouvez être français, ne pas habiter en France et vous voter pour
une
vos
remarque
députés,
par rapport au suffrage censitaire.
Des étrangers. Je termine, t'inquiète pas. Je veux juste te poser une question. Tu m'as dit que tu étais marocaine.
Oui.
pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à acquérir la nationalité française?
Juste deux choses par rapport
et
à la...
Tu pourras voter même à l'élection du président de la République.
Franchement, je vais te répondre, il n'y a pas de problème.
Et moi, je suis pour qu'on te facilite le fait de le devenir.
Deux choses. Par rapport au suffrage censitaire, je trouve ça vraiment de mauvaise foi. Parce que le suffrage censitaire a eu une vision restrictive. Il n'y avait que 1% des plus riches qui avaient le droit de vote. Ouais, depuis, on est dans une idée extensive. On l'a étendue aux femmes, aux plus jeunes, aux étrangers. Donc, on n'est pas dans cette idée que, en vrai, c'était quoi le suffrage censitaire? C'était que les pauvres étaient trop con pour voter. Quoi. On n'allait pas demander. Et par rapport à la nationalité, j'avais fait une demande de nationalité parce que j'étais au bout de ma vie, j'ai été longtemps sans papier. Et à un moment, je me suis posé la question, Fatima, pourquoi tu fais cette demande de nationalité? Et c'était, pour vous répondre franchement, là aussi je m'étais incriminée, une solution de convenance. Et puis à un moment, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, Fatima, tu ne peux pas réécrire l'histoire. Tu es marocaine, tu es tombée amoureuse follement de la France, tu as voulu y vivre. Et ce n'est pas pour autant que tu es française. Tu ne peux pas te réécrire un destin. Je pense que je suis pleinement citoyenne, que j'aime pleinement la France, que j'y participe, mais je ne peux pas m'inventer une vie que je suis française. Je ne suis pas française. J'ai grandi au Maroc, ça reste... Ça fait partie de moi, mais j'aime la France, j'y vis, et je pense que j'ai mon mot à dire dans ces débats et dans son destin.
Et moi, je comprends Fatima qui n'a pas envie forcément de prendre la nationalité française et de participer malgré tout.
Et ça me simplifierait la vie, purée.
Et de participer malgré tout à la vie locale, parce que là où tu es un peu de mauvaise foi, je trouve, Jérôme, en toute sympathie.
Je peux pas exclure que ça puisse m'arriver de temps en temps.
C'est
que la politique dans ma vie.
La commune est le premier degré de la démocratie locale, et je trouve que quand on est un groupe social dans lequel il y a un centre de nationalité, ça serait logique que c'est toutes ces nationalités participent à la vie locale. Je rappellerai que ça ne remonte pas à 40 ans de débat. Dans la constitution de 1791 et celle de 1793, il était prévu le vote des étrangers. C'est-à-dire qu'on aurait pu voter quelle que soit la nationalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai pas l'habitude de citer Nicolas Sarkozy, mais quand il était ministre de l'Intérieur en 2005, il avait dit ça. Je considère qu'il ne serait pas anormal qu'un étranger en situation régulière qui travaille, paye des impôts et réside dans le pays depuis 10 ans puisse voter lors des élections municipales. Je n'ai rien à retirer à cette déclaration. Alors après, quand il est devenu président, il a changé d'avis. Ensuite, Hollande, il a fait cette promesse, il ne l'a pas tenue, comme beaucoup des promesses qu'il avait proposé de tenir. Donc, c'est un problème de volonté politique et d'acceptation des citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ne sont pas encore prêts à accepter ça.
Au début du quinquennat Hollande, ils étaient majoritairement pour. Hein. C'est vraiment une question de ce qu'on met dans le débat.
Nasser est avec nous au 32-16. Bonjour Nasser.
Oui, bonjour Rémi.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC. Oui, Nasser, vous habitez dans l'Aube, c'est ça?
C'est bien ça.
Je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous avez le droit de vote?
Non.
Est-ce que vous avez la nationalité française?
Non.
Du coup, non. Vous êtes de quelle nationalité, Nasser, si je peux?
Algérienne,
d'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait de vivre en France?
Mais moi, par rapport à Fatima qui a grandi au Maroc, moi, je suis en France depuis l'âge de 3 ans.
Et vous avez quel âge?
Alors, ça fait 56 ans que je suis en France. Et comme le monsieur avant qui disait pourquoi pas faire la démarche, je l'ai faite plusieurs fois.
Pour obtenir la nationalité française?
Voilà, parce que je me considère comme français. Hein. Je suis allé à l'école française, mes amis sont français, je vis à la française.
Et pourquoi vous n'avez... Pour quelle raison vous n'avez pas obtenu cette nationalité?
Alors, la première fois, j'avais mon fils qui était mineur au collège. Hein, il avait fait une bêtise dans la cour avec ses camarades, hein, comme tous les collégiens. Hein. Alors, ils l'ont refusé. Et la deuxième fois, ils l'ont refusé parce que je ne travaillais pas. Mais je ne travaillais pas, pourquoi? Parce que j'avais eu un accident de travail et j'étais en invalidité.
D'accord.
La seule raison... Parce que j'ai pas de casier.
Je n'ai pas de raison économique aussi.
Mais, et ça vous fait quoi de vivre en France depuis 56 ans, Nasser, et de ne pas pouvoir
y avoir...
Eh bien,
ça fait mal au cœur.
J'ai toute ma famille qui est là. Ma mère est enterrée en France. Ma sœur est enterrée en France. Mes frères sont français. Mes sœurs sont françaises. Mes enfants sont français.
De toute façon, lui, il veut accéder à la nationalité, c'est autre chose.
C'est ce que j'ai dit, Jérôme. Nasser,
on l'entend quand même, mais cette souffrance...
J'ai pris soin, avant de dire que j'étais hostile au vote des étrangers non-européens en France, de dire, en parallèle de ça, sinon je serais uniquement un idéologue, soucieux de l'opinion publique générale, supposée, j'ai pris soin de dire qu'en parallèle, je suis pour que l'on facilite fortement l'accès à la nationalité française à ceux qui y sont
mais
présents.
Mais tu es quand même un idéologue. Pourquoi un Suédois la aurait plus...
La flatterie n'a aucun effet sur moi.
Tu es un idéologue parce que pourquoi un Suédois serait plus légitime
pour une raison,
à voter un budget municipal qu'un Algérien
pour
ou
une raison différente
qui, comme un sert, est là depuis 57 ans.
Pour une raison différente, c'est que quand tu es de pays à pays, il y a la réciprocité. Si je vais en Suède, je peux voter en Suède. Si le Suédois vient ici, il peut voter. Et nous sommes citoyens, tous les deux pays qui ont même corpus judiciaire.
Mais il y a d'autres pays européens signataires du traité de Maastricht qui l'ont étendu.
Il faut se rappeler de quoi on parle. Valeurs. On parle,
mais
selon les études...
Ça va bien se passer.
Mais pourquoi cette histoire de réciprocité ne marche pas dans tous les pays européens signataires du traité de Maastricht qui l'ont étendu aux étrangers
Et la deuxième chose,
ça, c'est leur souveraineté à eux.
Voilà, mais
ils ne peuvent pas ne pas accepter les conséquences du traité de Maastricht.
Jérôme, les études, très rapidement, il faut savoir de quoi on parle. Les études montrent que ça concerne 1,8 million d'étrangers et que si on considère qu'il y en a 20, les études montrent qu'il y aurait 25% des gens qui s'inscrivent sur les listes, c'est 460 000 personnes, c'est-à-dire rien. Peu de monde.
Ce qui en soi est un problème, c'est dommage, l'abstention en général.
Tout à fait. Mais donc, de quoi on parle? 460 000 personnes. Donc, c'est pas un problème de. Parce que je vois aussi le truc qui est sous-jacent en disant attention, ça va renverser la table et ça va permettre à des étrangers de.
Ah, mais de moi je ne suis pas du tout dans ça. Suis pas du tout dans ça. Non, je pense que. Non. Mais non, parce qu'au final, je ne comprends pas pourquoi il y aurait une sous-citoyenneté de dire ah, oui, mais vous êtes bien, mais juste pour les municipales, pas pour. Le reste.
C'est vrai que moi, à ce moment-là, je suis pour qu'on puisse voter.
Je comprends pas l'intérêt. C'est ce que t'as dit tout à l'heure.
Le meilleur moyen, effectivement. C'est si t'as décidé d'habiter ici, tu demandes la nationalité française et on te facilite l'acquisition de la nationalité française. Mais on t'oblige pas à renier ta nationalité d'origine.
Merci à Nasser d'avoir été avec nous au 32-16. Il nous appelait depuis le département de l'Aube. Il nous appelait au 32-16. Vous continuez à le faire. Faut-il accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales? On en débat dans un instant dans Estelle Midi sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi sur RMC, tous les jours, midi 15h, on continue de débattre de l'appel lancé par l'ancien ministre socialiste François Rebsamen, soutien d'Emmanuel Macron, pour accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Autour de moi, il y a toujours Fatima Benomar, Jérôme Lavrieux, Thierry Mont. Jérôme, vous étiez depuis tout à l'heure un petit peu seul dans ce débat face à Thierry et à Fatima, qui sont pour accorder ce droit de vote aux étrangers aux élections locales, mais... Vous allez avoir un soutien tout de suite puisque Gilles Platré nous rejoint. Bonjour Gilles Platré.
Bonjour.
Maire de Chalon-sur-Saône, vice-président des Républicains. Gilles Platré, bon, vous avez lu, entendu cet appel de François Rebsamen ce dimanche dans le JDD. Est-ce que vous êtes opposé? Je ne vais pas tourner autour du pot. Vous y êtes formellement opposé à ce droit de vote?
Oui, bien sûr. Il y a des raisons philosophiques et des raisons pratiques à tout ça. Les raisons philosophiques, c'est déjà que à mon sens, la nationalité est nécessaire pour exercer le droit de vote. C'est une condition préalable. Après, j'entends parfaitement les arguments contraires qui disent que c'est pas nécessaire, mais pour moi, c'est l'affaiblissement de la nationalité et de même de nation.
Non, vous êtes contre le droit de vote des étrangers communautaires.
Je vais jusqu'au bout. Je vais permettre d'aller jusqu'au bout. Vous avez beaucoup parlé. Je vais essayer d'exprimer rapidement ma pensée. C'est donc la nécessité pour protéger la nation de conserver le droit de vote, sauf exception, évidemment, dans le cas de la citoyenneté européenne décidée par le traité de Maastricht. De conserver le droit de vote aux nationaux. Voilà, ça c'est une question de philosophie. Alors on peut être contre ou pour. En tout cas, moi je la défends ardemment parce que j'ai envie de défendre la nation française et que la nation et la nationalité doivent avoir du prix si elle accorde un certain avantage par rapport au reste du monde.
Vous voulez défendre Gilles Platré, juste. Vous voulez défendre la nation française. Elle serait en danger si les étrangers avaient le droit de vote aux élections locales?
Oui, bien sûr. Mais bien sûr, je vais vous dire pourquoi. Bien sûr qu'elle n'a pas s'écrouler du jour au lendemain, même si elle a déjà été bien attaquée depuis des décennies. C'est une question de principe. Vous considérez que la nation est celle qui vous permet d'exercer les droits politiques. Et donc, vous reconnaissez aux seuls nationaux...
J'ai des droits politiques.
Attends, Fatima.
Ça, c'est une question, j'allais dire, de philosophie politique. Et puis, il y en a une autre. Il y a une question pratique, parce que j'écoute vos débats depuis tout à l'heure, et j'ai l'impression que personne ne voit les influences qu'il y a entre le vote au municipal et le national. Mais quand vous élisez des conseillers municipaux, c'est un maire qui vous parle, vous élisez aussi, indirectement, des parlementaires qui s'appellent les sénateurs, qui participent à l'expression de la souveraineté nationale au Sénat. Donc il y a une communication directe entre les deux. Et quand vous avez, c'est là où j'en viens à l'aspect pratique, j'ai entendu des chiffres, finalement c'est pas grave, ça concerne quelques centaines de milliers de personnes. Mais vous avez des villes où vous allez avoir des groupes de pression qui d'ailleurs parfois peuvent être commandés par l'étranger. Allez donc voir ce qui se passe dans les communautés turques sous influence de M. Erdogan. Si vous permettez aux étrangers de voter, alors vous allez avoir des groupes de pression,
c'est le vote communautaire,
des pressions nationaux qui vont interagir sur la souveraineté nationale. C'est tout simplement impossible.
Fatima.
Oui, il y a vachement un vote communautaire suédois ou quoi que ce soit par rapport aux autres communautés, c'est n'importe quoi. Et en plus, vous savez très bien que les grands électeurs ne peuvent pas être élus par des électeurs étrangers. Et comment vous pouvez dire qu'en fait le destin de la nation serait mis en danger par le fait que des personnes comme moi, donc merci de me voir comme un danger, vont avoir leur mot à dire tout simplement sur la manière dont leur commune et leur ville est gérée.
Je vous réponds, c'est pas la peine de jouer les victimes, je vous ai pas dit que je vous voyais personnellement comme un danger, donc arrêtez de caricaturer.
C'est exactement ce que vous avez dit, je suis désolée, je suis étrangère.
Je connais ce langage victimaire par cœur, et c'est toujours la meilleure façon d'avoir l'oreille des auditeurs que de jouer la victime. Donc vous n'êtes pas une victime, vous êtes vous-même, vous avez refusé de demander la nationalité française, c'est votre affaire à un moment donné, c'est votre choix, je le respecte, mais il y a des conséquences. Et dans ces conséquences, le fait que vous ne puissiez pas voter en fait partie. Maintenant, je reviens sur le cas pratique de l'élection des sénateurs. Si vous avez, comme dans certaines villes, une proportion d'étrangers qui parfois équivaut à la proportion de Français, allez voir quelques villes de la Seine-Saint-Denis, mais pas qu'en Seine-Saint-Denis non plus. Il faut élargir le débat. Reprenez France Stratégie, qui dépend du gouvernement, c'est pas moi qui ai créé cette organisation. L'année dernière, a produit une belle étude sur précisément l'importance de la population étrangère dans la population d'un certain nombre de villes de France et les évolutions prévisibles dans la matière. Quand vous avez parfois l'équivalent population française, population étrangère, vous croyez qu'il va se passer quoi? Vous croyez que des conseils municipaux ne pourront pas être totalement occupés par des personnes, les places des conseils municipaux occupées par des
monsieur,
personnes.
Monsieur, vous savez, c'est pas parce que je suis étrangère que je vote avec les mêmes étrangers. Je suis de gauche, je vote à gauche, hein. Il y a des étrangers à droite.
Mais c'est pas la question de la politique.
Mais on dirait que vous dites qu'on va tous voter en cœur.
Fatima.
Vous nous accusez presque de voter en cœur. Moi, je vote pour mes idées politiques, hein.
Contrairement à cette idée bisounours que tout se passe dans le meilleur des mondes, il y a aujourd'hui des groupes de pression et des États étrangers qui manipulent les populations dans notre pays quand elles sont de leur nationalité. Moi, je ne tiens pas, pour préserver la nation française, à ce que des États étrangers puissent, par l'intermédiaire de nouveaux votants, puisque je voulais en faire de nouveaux votants, puissent interagir sur la politique nationale. Et c'est ça, c'est une position.
C'est ce qu'on disait sur le droit de vote des femmes, elles vont voter comme leur curé.
Un dernier mot, Gilles Platré, je suis désolé, on est pris par le temps.
Quant à Monsieur Rebsamen, que je connais très bien, puisque j'administre une ville à 60 km de la sienne, s'il a fait cette proposition, ne m'étonne absolument pas. Il ferait bien de commencer par balayer devant sa porte, parce que le soutien au communautarisme islamique, comme il le fait depuis trop longtemps, ça suffit. Et c'est pas un hasard si c'est lui qui remet de l'huile sur le feu sur ce sujet précis.
Gilles Platré, merci d'avoir été avec nous. Maire de Chalon-sur-Saône, vice-président des Républicains. On vous a posé la question, sur l'ancien ministre socialiste François Rebsamen, et qui a été rhabillé pour l'hiver, là, à l'instant, par Monsieur Platré. Soutien d'Emmanuel Macron, qui souhaite accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Votre avis sur les réseaux sociaux, Mao?
Non, à 88%, non. Il ne faut pas accorder le droit de vote aux étrangers. Autant le premier débat était partagé, autant celui-ci est clair.
Dans un instant, dans Estelle Midi, on va parler d'autres chiffres. On va parler de ce chiffre-là, 55%. Plus d'une femme sur deux hésite d'aller à la plage seule de peur d'être harcelée. Est-ce que ça vous étonne? Vous nous appelez au 3216. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.